auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à cette nouvelle émission de La Terre à l'Assiette sur Radio Partasse au 107. Émission qui vous est présentée, comme vous le savez, par l'association Vergers de Lozère, qui s'occupe de la sauvegarde des fruitiers lozériens, et par l'association Jardin Nature 48, représentée par Jackie. Et Jackie, qui cette fois-ci, il a un bras dans le plâtre, mais il a quand même tenu à venir dialoguer avec nous sur nos passions communes, et qui représente l'association donc Jardin Nature 48. Jackie, quels sont ses objectifs? Tu nous les rappelles?
D'abord, bonjour à tous. Bonjour Cécile. Les objectifs de Jardin Nature 48, c'est un petit peu tout ce qui concerne le jardin, en évitant complètement les pesticides en règle générale. Donc toutes les méthodes alternatives qu'on va pouvoir trouver pour éviter de mettre des pesticides au jardin.
Voilà, alors il s'agit aujourd'hui de notre dernière émission de la saison, parce que Radio Partasse va passer dans son programme estival, et nous allons donc nous quitter pour quelques semaines. Mais n'ayez crainte, avant de partir, nous allons vous donner un tas de choses à faire pour cet été. Alors, d'abord sur le chapitre national et international, et sur les pesticides, enfin ça bouge un peu. En mars dernier, vous vous souvenez peut-être que 5 produits, dont le glyphosate, qui est représenté essentiellement par le Roundup de Monsanto, ont été officiellement classés comme agents cancérogènes probables ou possibles. Alors, selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer, qu'on appelle l'IARC ou l'IARC, dont le siège est à Lyon, le glyphosate, qui est présent donc dans le Roundup, et des insecticides comme le malathion, le diazinon, ont été classés comme cancérogènes probables pour l'homme, même avec des preuves encore un peu limitées. Le glyphosate, c'est l'herbicide Roundup qui est, dont la production est la plus importante en termes de volume dans le monde. Il est fabriqué par Monsanto et il est largement utilisé en agriculture, mais aussi, hélas, dans les forêts et, encore pire, par les particuliers dans les jardins. Le malathion est encore utilisé en agriculture dans le monde, mais en France, il est interdit depuis 2008 en usage agricole. 17 experts de 11 pays ont démontré que ce glyphosate, donc le Roundup, a été retrouvé dans l'air, dans l'eau et dans la nourriture. Mais l'IARC précise que la population générale est notamment exposée lorsqu'elle habite à côté de zones traitées. Alors, quels sont donc les risques cancérigènes du glyphosate et des insecticides? Ce sont certains lymphomes, des cancers du sang et des cancers également de la prostate pour le malathion et le cancer du poumon pour le diazinon. Malheureusement, la classification de l'IARC n'a aucun caractère contraignant et c'est donc au gouvernement et aux organisations internationales de recommander des réglementations, des législations ou des interventions de santé publique. Alors, inutile de vous dire, cela ne vous surprendra pas que le fabricant du Roundup, le groupe Monsanto, Serial Killer, n'est pas du tout d'accord. Alors, toujours dans le chapitre pesticides, vous vous souvenez peut-être d'un céréalier de Bernac en Charente, Paul François, aujourd'hui âgé de 51 ans, qui est partiellement invalide suite à un accident et une exposition accidentelle à des vapeurs de l'asso au moment où il ouvrait la cuve d'un pulvérisateur, qui était en avril 2004. Il a donc poursuivi en justice le groupe Monsanto, une fois de plus, et la Cour d'appel de Lyon a reconnu responsable Monsanto en première instance en 2012 de l'intoxication de cet agriculteur charentais. En 2005, des analyses relevaient dans son organisme des traces de monochlorobenzène, qui est un solvant très toxique et qui est le principal composant du lasso. Et sa présence ne figurait pourtant pas sur l'étiquette. En première instance, le tribunal a relevé notamment que rien n'était mentionné concernant les risques liés à l'inhalation du produit ou à la nécessité de porter un appareil de protection respiratoire. L'avocat de M. Paul François, maître François Laforgue, a dénoncé devant la presse une stratégie de harcèlement judiciaire de Monsanto envers ce monsieur, ce céréalier Paul François. On jette le discrédit sur Paul François, sur sa famille, on remet en cause tous les éléments de preuve qu'on apporte, c'est exténuant. Mais j'espère que la Cour d'appel confirmera le jugement en septembre. Alors, laissons un petit peu maintenant cette question des pesticides. Nous sommes dans la pleine saison des fraises et nous avons pas mal entendu parler de problèmes avec les fraises qui viennent d'Espagne. Alors, Jackie, qu'est-ce que tu penses de ces fraises d'Espagne ? Est-ce qu'elles ont mauvaise réputation et pourquoi ?
Eh bien, malheureusement, on ne va pas sortir des histoires de pesticides, puisque, en fait, c'est bien un petit peu le problème qu'il y a aussi avec les fraises d'Espagne. Il faut savoir qu'en 15 ans, la production mondiale a doublé, hein, c'est-à-dire qu'on mange de plus en plus de fraises. Et en France, on en consomme plus de 130 000 tonnes chaque année, ce qui est énorme. Comme nous en produisons que la moitié, eh bien, on est obligé d'en importer. Et principalement, on importe les moins chères, c'est-à-dire celles qui viennent d'Espagne. Avec son taux d'ensoleillement exceptionnel, le sud de l'Espagne, qui est une véritable mer de bâches et de serres en plastique, fournit l'Europe presque toute l'année en fraises hors sol. Selon une étude allemande, il y aurait au total plus de 105 molécules différentes détectées, parmi lesquelles le cyprodinyl, le fludioxonyl, le phénoxadimide, le tolifluanide, désormais interdit en France, et l'azoxystrobine. Vraiment, on n'a pas bien l'habitude d'utiliser ces produits et donc même pas de dire leur nom. Voilà, donc malheureusement, on est toujours dans les pesticides.
Oui, alors évidemment, ce cocktail ne donne pas très envie. Mais alors, comment est-ce que ces fraises espagnoles, les producteurs de fraises espagnoles, procèdent pour avancer comme ça la saisonnalité ?
Alors, l'été, les plants sont placés dans des frigos pour leur faire croire que c'est l'hiver et avancer donc la production. Au printemps, les bâches noires permettent de chauffer à bloc le sol. Et à l'automne, c'est le grand ménage de printemps. La terre sableuse est nettoyée par stérilisation, ce qui détruit toute la microfaune. Ils utilisent du bromure de méthyle et de la chloropicrine. Le bromure de méthyle est un poison violent interdit par le protocole de Montréal sur les gaz attaquant la couche d'ozone, signé en 1987. Et l'autre produit, la chloropicrine, est un composé de chlore et d'ammoniac. C'est aussi un poison. Il bloque les alvéoles pulmonaires en entraînant de violentes douleurs. Il a longtemps servi dans les gaz de combat. Voilà pourquoi nous pouvons vous déconseiller l'achat de fraises d'Espagne pour le moment. On n'a rien contre les producteurs espagnols. Il faudrait qu'ils changent leur méthode. Et si nous, consommateurs, on a la présence d'esprit de ne pas acheter en masse un tel produit, nul doute qu'ils seront obligés de prendre cela en considération et qu'ils reverront leur mode de culture. Il faut toujours bien comprendre que c'est nous, les consommateurs, qui, en fait, devons exiger des bons produits.
Merci, Jackie. Voilà une mise au point qui, effectivement, n'est pas très alléchante pour les fraises espagnoles. En ce qui me concerne, j'aime bien plutôt les cycles courts et j'avoue que j'achète surtout des fraises d'Hispaniac. Alors, maintenant, parlons un peu de tomates. Et pour commencer, nous allons vous parler d'un monsieur qui s'appelle Pascal Pout, qui cultive des tomates à l'Odève, dans l'Hérault. Bon, jusqu'à maintenant, ça n'a rien d'étonnant. Il y a beaucoup de gens qui cultivent des tomates dans toute la France. Mais par contre, ce qui est carrément stupéfiant, c'est qu'il a inventé une technique pour cultiver ses tomates sans arrosage, malgré la sécheresse, sans tuteur, sans entretien et, bien entendu, sans pesticides ni engrais. Et ses plants produisent jusqu'à 25 kg de tomates par chacun. Alors, comment est-ce que cela peut se faire ? Jackie, tu le sais ?
Oui, j'ai entendu parler effectivement de ce producteur de tomates qui, en fait, est parti d'un constat simple. Chez lui, les terres sont pauvres, caillouteuses. Il n'y a pas de possibilité d'arroser. Donc, il s'est dit, il me faudrait des tomates qui puissent résister à tout ça. Et donc, il a inventé un procédé, tu peux nous en parler si tu veux, Cécile, un procédé pour, en fait, arriver à avoir des graines de tomates dans des variétés qu'on connaît déjà, mais qui soient résistantes à la sécheresse.
Voilà. Alors, ce qu'il a fait, c'est de jouer sur l'instinct de survie de tous les êtres, hommes, animaux, plantes. Et son secret, il tient, en fait, dans les graines de tomates. Et dans la façon dont il les obtient en les encourageant à se défendre eux-mêmes. Alors, il a pris des graines de tomates et les a fait pousser dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'il les a semées, puis il les a laissées pousser toutes seules, sans engrais, sans eau, sans traitement, en plein cagnard. Alors, tout le monde pense que si on fait ça, toutes les plantes meurent. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui survivent. Et donc, parmi les survivantes, il y a quelques plants de tomates qui lui ont donné de minuscules petites tomates immangeables. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne les mange pas, mais il prend leurs graines. Et l'année suivante, il les ressème dans les mêmes conditions. Et il obtient des tomates un petit peu moins petites. Ensuite, il reprend leurs graines et il les ressème. Et au bout de 2 ou 3 ans, au bout de 2 ou 3 générations, il obtient des tomates mangeables. Au bout de 3 ou 4 ans, il peut avoir 1 à 2 kilos par plant et il atteint maintenant jusqu'à 25 kilos par plant de tomates et qui sont parfaitement sains avec jamais de mildiou. Alors en gros, il sélectionne ses semences dans un contexte de difficulté et de stress pour la plante, ce qui les rend extrêmement tolérantes, améliore leur qualité gustative et en fait, fait qu'elles sont plus concentrées en nutriments. Et en plus de ça, il cultive plusieurs centaines de variétés différentes.
Peut-être qu'on va pouvoir continuer après une pause musicale avec la culture. Justement, on reprendra sur ces tomates et vous indiquer comment on fait pour récolter les graines de tomates et voir un petit peu ce qu'on va avoir à faire cet été au jardin avec quelques conseils.
Bon, alors pour cette petite pause musicale, puisque nous sommes dans le mois de juin, nous allons écouter Mado Robin nous chanter une chanson sur les hirondelles qui vient de l'opéra Mireille. Oh,
Eh bien, après cette petite pause musicale, on est toujours au 107, à Radio Bartas, dans l'émission « De la terre à l'assiette ». On va maintenant vous parler de la récolte des graines de tomates. Parce que même si Pascal Pout peut le faire à l'ODEV, vous pouvez vous aussi sélectionner vos graines de tomates pour les semer d'une année sur l'autre. L'intérêt d'avoir ses propres graines, c'est qu'elles sont élevées dans des conditions particulière, c'est-à-dire les conditions de son propre jardin, les conditions d'arrosage que vous leur aurez donné, et tout ça va s'inscrire dans les gènes de la graine. Il est donc intéressant de faire soi-même ses propres graines. Alors, comment on va faire pour la récolte de graines ? Déjà, on va choisir des tomates. Le mieux, c'est en début de saison, quand la plante est très vive, très, très belle. On va choisir une tomate ou deux tomates bien mûres et saines sur des pieds. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins 80 cm d'écartement entre les pieds pour qu'on n'ait pas une pollinisation croisée. Donc, on aura nos tomates d'une variété, prenons n'importe quoi, hein, genre la noire de Crimée. On va donc prélever nos tomates, les couper en deux dans le sens horizontal. On va détacher les graines qui vont donc être dans une espèce de liquide à l'intérieur de la tomate. On va faire glisser tout ça dans un verre si on fait une petite récolte, dans un bol ou dans un saladier si on fait une récolte plus importante. Et puis, dès ce moment-là, on va commencer à étiqueter. Il faut toujours penser à étiqueter parce que rien ne ressemble plus à une graine de tomate qu'une autre graine de tomate. Donc, comme vous avez 5 ou 6 variétés chez vous, bah, étiquetez bien ou une fiche plastique dans un verre ou même marquer avec un feutre sur un bol. Ça fonctionne comme ça. Cette mixture donc, qui est constituée du liquide qu'il y avait dans la tomate, des graines enrobées qu'il y avait dans la tomate, on va rajouter juste un petit peu d'eau et on va laisser ça pendant 3, 4, 5 jours à un peu plus de 20 degrés. Ça peut être tout à fait dans la cuisine. Vous allez, dès le lendemain, sentir qu'il y a une fermentation. Hein, ça sent un peu le vinaigre, ça sent un peu acide. C'est normal, c'est que en fait, la pulpe qui était autour des graines est en train de se décomposer. Au bout de 4 jours, souvent, vous allez avoir en surface une pellicule blanche qui va se développer. Bien sûr, c'est un champignon, une moisissure. Vous laissez bien ça se développer et ensuite, vous allez avec une passoire à thé, par exemple, bien nettoyer les graines. Une fois que ces graines sont nettoyées, vous allez les faire sécher pendant une semaine sur un papier absorbant. Attention, les graines, on a toujours tendance à vouloir les ensacher trop tôt. Les graines, il faut qu'elles soient très très sèches pour bien se conserver. Et donc, une fois ce séchage sur sopalin, vous allez ensacher et étiqueter. Alors, pensez bien, sur chaque sachet, vous allez marquer de façon obligatoire le nom de la variété et la date. La date, ça peut être simplement l'année, hein, mais pour se souvenir. Certaines personnes marquent directement la date de péremption. Ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet. C'est tous les végétaux, on peut avoir une date de péremption des graines. Pour les tomates, c'est de l'ordre de 4 ou 5 ans. Pour certaines, pour le panais, par exemple, c'est 1 an. Quand je marque ma date, par exemple, j'ai récolté ça en 2015, je marque, entre parenthèses à côté, jusqu'à 2016. Je sais qu'il va falloir que j'aille très vite pour utiliser ces graines. Pour les tomates, donc, je vous disais, c'est de l'ordre de 4-5 ans. Ensuite, on peut très bien marquer dessus le lieu de la récolte, etc. Toute information qui peut être intéressante par la suite. Voilà pour ce qui est de la récolte des graines, mais on n'en a pas fini avec les tomates parce que Cécile a encore des choses à nous dire.
Voilà, alors je voulais citer quelques phrases de Pascal Pout, ce monsieur qui a inventé une espèce de super tomate qui résiste à la sécheresse, au manque d'engrais et qui pousse et produit énormément dans des conditions extrêmes. Alors, il nous dit, le principe, c'est qu'on ne nous autorise à vendre que les graines qui donnent des fruits qui sont tous pareils et qui donnent les mêmes résultats à chaque endroit. Pour moi, c'est le contraire du vivant qui repose sur l'adaptation permanente. Cela revient à produire des clones, mais on veut en plus que ces clones soient des zombies. sauf que l'uniformisation des fruits et des semences se fait souvent au détriment du goût et des qualités nutritives et pourrait à l'avenir nuire aux agriculteurs. Alors, la plante a fait ses graines après avoir vécu son cycle, donc elle conserve certains aspects acquis. Et Pascal Pout exploite ça extrêmement bien parce que ces plantes ne sont pas très différentes des autres au niveau génétique, mais elles ont une capacité d'adaptation impressionnante. Aujourd'hui, on parle de l'hérédité des caractères acquis. En clair, il y a une transmission du stress et des caractères positifs des plantes sur plusieurs générations. Évidemment, tout le monde peut cultiver les tomates de Pascal Pout. Et dimanche dernier, on était allé déjeuner chez des copains jardiniers à Saint-Jean-du-Gard. Et il en avait plein son potager. Il était allé lui-même chercher ses semences à l'Odève. Et il va donc me tenir au courant des progrès de ses super tomates.
Alors on va continuer par quelques conseils de jardinage pour l'été, hein, qui seront valables pour tout cet été. Moi, j'avais envie de parler des arrosages, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Il va y avoir l'arrosage et les récoltes, en gros. Hein. Eh bien, les arrosages, il faut mieux arroser le soir, quand la chaleur est un petit peu tombée. Jamais arroser sur les feuilles des légumes. Mais par contre, alors ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais sur les végétaux tels les haies, en fait, tout ce qui est plantes ligneuses, qui sont moins sensibles aux brûlures, eh ben, on va pouvoir arroser le soir directement sur les feuillages. Dans les journées, après les journées qui ont été très très chaudes l'été, c'est bien tout de suite de réhydrater les feuillages des plantes ligneuses.
Même les rosiers ?
Alors, le rosier n'est pas une plante ligneuse. Il y a toujours de la sève molle à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est une plante herbacée, durcie, mais ce n'est pas une plante ligneuse. Ah, c'est jamais vraiment du bois.
Ah, d'accord.
Voilà, ceci explique cela. Pour les plantes qui demandent une humidité importante, par contre, eh ben, ce qu'il va falloir penser absolument, c'est au paillage. Le paillage est une méthode très intéressante pour éviter l'évaporation. Je vois, moi, par exemple, avec les cucurbitacées, hein, qui demandent normalement beaucoup d'eau. On parlait des tomates aussi précédemment. Si vous faites un paillage, vous n'aurez quasiment pas besoin de les arroser. Alors, comment on procède pour un paillage qui fonctionne bien, même au jardin ? Moi, je mets un carton, d'abord. Dans le carton, on découpe un petit cercle par lequel va passer la plante. Et alors, par-dessus, les paillages peuvent être différents. Hein. On peut mettre de la paille, on peut mettre du foin, on peut mettre du bois raméal fragmenté, le fameux BRF. On peut mettre, par exemple, les tontes qu'on aura préalablement exposées au soleil pour les sécher un petit peu. Même quand je désherbe des mauvaises herbes, on va pouvoir le mettre par-dessus. Les épluchures de légumes pendant l'été, au lieu de les mettre directement au compost, on peut aussi mettre ça par-dessus. Tout ça va finir par se décomposer et surtout avoir de l'humidité qui va rester au pied de nos végétaux. Alors une petite chose aussi, ben là ça va être plus pour la fin d'été, mais vous verrez que ça arrive très vite. Hein. Déjà on a des coins de jardin où on va récolter les salades. Si on a fait aussi un petit peu de radis pendant ce printemps et on va rien planter derrière. Alors moi je vous dirais semer des engrais verts. Les engrais verts vont améliorer votre sol, vont occuper d'abord le sol. Toujours très important que le sol soit occupé, soit recouvert. La culture puis l'incorporation dans le sol de cette couverture végétale permet de maintenir et d'améliorer la fertilité des sols. Vous allez améliorer. Cette couverture végétale va protéger et améliorer aussi la structure du sol tout en stimulant son activité biologique. Et elle va aussi vous permettre la maîtrise des adventices. Les adventices, c'est ce que tout le monde appelle les mauvaises herbes. Hein, à partir de, comme la nature a horreur du vide, si vous avez des engrais verts, vous n'allez pas avoir de mauvaises herbes qui va pousser. Alors après, les engrais verts, c'est une notion qu'utiliser. Alors vous pouvez par exemple, je vais simplement vous donner trois exemples, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plantes qu'on peut mettre, qui sont dans le commerce, qu'on voit de plus en plus maintenant, hein, dans les coopératives agricoles ou autres. Vous avez les vesses, hein, qui sont des pois, il y a le seigle, il y a l'orge même qu'on peut mettre. Je vais vous parler là de la phacélie. Alors la phacélie est intéressante parce que ces fleurs attirent les insectes auxiliaires. Et ces insectes auxiliaires vont manger ensuite les nuisibles. C'est une excellente plante mellifère aussi. Elle attire les abeilles et donc elle va favoriser la pollinisation dans votre jardin. Elle enrichit le sol en azote et ses puissantes racines ameublissent le sol. Ils vont faire un travail du sol que vous n'aurez pas à faire. Son développement envahissant permet de combattre les mauvaises herbes et le chien-dent. Alors, il y a une autre possibilité, c'est la moutarde. Elle pousse très vite et occupe donc les terrains avant que les autres plantes ne s'installent. Ça, c'est très intéressant. Elle enrichit le sol en azote. Ça aussi, c'est intéressant. Par contre, je vous dirai un petit peu les inconvénients. Le trèfle incarnat. Alors ça, c'est une plante annuelle aussi. Toutes ces plantes sont annuelles, c'est-à-dire que, en fait, elles vont être sur le sol. Et puis, simplement, au début de l'hiver, on va les laisser geler et puis faire une couverture du sol pendant l'hiver. Le trèfle incarnat, il fait partie de la famille des fabacées. Il fixe l'azote de l'air au niveau de ses racines. Donc là, ça va être intéressant aussi. Son important système racinaire aère et décompacte le sol. Il étouffe les herbes indésirables. Et c'est une espèce annuelle qui est donc plus facile à détruire que le trèfle blanc. Alors, je voulais revenir sur la moutarde, simplement, parce qu'il faut comprendre que la moutarde est un crucifère. Je ne vais pas la semer là où je vais mettre des choux l'année suivante. Pourquoi ? Parce que le chou est une crucifère aussi. Et donc, la moutarde aura absorbé des substances dans le sol dont le chou pourrait avoir besoin derrière. C'est pour ça qu'il y a plusieurs exemples d'engrais verts. Selon ce qu'on va faire derrière, on va adapter un engrais vert qui va apporter plus d'azote ou qui va correspondre, si vous voulez. Moi, derrière la moutarde, là, on peut mettre sans aucun problème des haricots. Alors donc, il va falloir prévoir à l'avance ce qu'on va faire au jardin l'année suivante au moment de mettre les engrais verts. Et n'hésitez pas, dès que vous avez une petite place au jardin, semez les engrais verts. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup, beaucoup de place, sinon on ne le fait jamais au jardin.
Bon, et ben, avant de nous quitter, je vais juste vous mentionner brièvement une de mes cueillettes préférées. Ce sont les fleurs de sureau qu'on trouve actuellement en Lozère, à différentes altitudes. Et le sureau est un arbre que je trouve très intéressant parce qu'il est très versatile, on peut en faire un tas de choses. D'abord, la première chose, il faut bien choisir l'arbre et la saison. Le sureau, je crois que ça fait partie de la famille des chèvrefeuilles, ce qui fait qu'en principe, il a une odeur absolument exquise. Mais certains arbres peuvent avoir une odeur épouvantable qui rappelle la pisse de chat. Ou alors, si on attend trop pour la récolte, cette odeur désagréable peut également se développer. Alors donc, il faut bien choisir son arbre. Il faut ramasser ses fleurs de sureau, les énormes panicules, comment ça s'appelle ?
Ombelles.
Des ombelles, excuse-moi. Voilà, les ombelles de sureau. Et on peut en faire, par exemple, on peut en faire du champagne. Comme le pollen des fleurs de sureau renferme une levure qui est extrêmement active, vous pouvez vous amuser à mettre des fleurs de sureau dans de l'eau avec du sucre et prenez soin de prendre une bouteille en plastique parce que très très vite, elle va gonfler. Cette bouteille, elle va se remplir de bulles et elle va gonfler. Et en fait, ça vous donne une boisson très très légèrement alcoolisée, ça fait 1 à 2 degrés, mais très rafraîchissante et excellente. Vous pouvez aussi en faire un sirop carrément. Avec des fleurs, du sucre, des citrons. En fait, ce sirop est très bénéfique pour les maladies respiratoires, les états grippaux, le rhume. Et enfin, on peut en faire du vin de sureau. Et ça, je ne sais pas si elle conserve ses propriétés, mais en tout cas, c'est une boisson absolument délicieuse. On peut faire macérer pendant 2 ou 3 jours des fleurs de sureau dans du vin, qui peut être du vin rouge, du vin rosé ou du vin blanc. Et on filtre, on ajoute du sucre à volonté, on ajoute un peu d'alcool à 45 degrés, un demi-verre par litre, par exemple, de vin. Et puis, il faut attendre plusieurs mois pour que le vin de sureau se fasse. Et je trouve ça absolument délicieux. Vous venez d'entendre donc notre émission De la Terre à l'Assiette qui vous est présentée par les associations Vergers de Lozère et Jardin Nature 48 sur Radio Partasse au 107. Nous allons maintenant vous quitter pour quelques semaines, puisque Radio Bartas va passer à sa grille d'été. Mais nous nous retrouverons, je l'espère, à l'automne. Donc, bon été à tous. Merci de votre écoute et à très bientôt.
Eh bien, je ne pourrais pas dire plus. Hein. Bon été au jardin surtout. Essayez de mettre en pratique un peu les conseils qu'on vous a donnés. Et puis, on en répétera d'autres l'année prochaine.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.